Un bon boulot, témoignage et discussion sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier et épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Dans l'émission précédente, Marine et Michel nous ont présenté leur parcours pour devenir professeurs d'échecs. Dans ce numéro, nous entrons dans le détail de ce métier en commençant par l'entraînement quotidien nécessaire pour l'exercer.
Pour essayer de garder un niveau, moi en tout cas, c'est quand même pas mal de travail. Hein. Alors heureusement aujourd'hui on a des outils formidables avec l'informatique. Mais
les outils, c'est par exemple les outils qu'on trouve sur l'e-chess ou...
Alors, aussi bien sur les, jeux, sur les sites de plateformes de jeux en ligne, oui, mais également des logiciels.
Quel type d'outils qui permettent de faire quoi alors
Des logiciels qui font, je ne vais pas les citer, mais sur lesquels on peut faire apparaître à notre écran un échiquier, faire bouger les pièces comme on le souhaite et pouvoir travailler directement avec l'ordinateur les variantes que l'on souhaite, faire des analyses.
Une variante, c'est quand on est sur une position et il y a, suite à cette position, il y en a 5 possibles au moins ou 10. Ou...
Voilà. Et en fait, moi, ma première base de travail pour progresser au départ, ça a été les livres, hein, malgré tout. Malgré tous les outils informatiques, c'est les livres. C'est comme ça que j'ai commencé à progresser, mais en utilisant l'informatique, c'est-à-dire que dans un logiciel de jeu d'échecs, je vais enregistrer des... Je vais numériser les parties ou les analyses qui sont dans les livres.
Parce que les livres, faut imaginer, on ouvre un livre et il y a E3, C5, c'est une suite comme ça de coordonnées qui saisissent la place des pions.
Très très long à numériser, évidemment, mais...
C'est lisible aussi, enfin,
Après, ça prend beaucoup de temps, mais ce sont dans les livres... c'est dans les livres qu'on va trouver les références, les vraies références qui vont permettre de progresser. Hein.
Donc les livres qui reprennent toutes les parties, en plus des grands, des grands joueurs, il y a toute l'historique, c'est ce qu'on appelle la théorie, c'est ça hein.
Voilà, c'est la théorie. La théorie, c'est l'ensemble, imaginer des meilleurs coups que peuvent jouer les blancs et les noirs dans une partie qui ont été analysés par des grands maîtres bien avant nous. Et parfois, on peut... prolonger des analyses au-delà ou trouver des nouvelles variantes, donc des nouvelles directions que ceux qui avaient été étudiés auparavant.
Moi qui, j'ai joué à 12 ans aussi, après j'ai arrêté parce que je n'avais pas de partenaire et je suis dans un club depuis chez vous, là, depuis un an. Donc j'ai découvert que je n'avais pas joué. Et j'ai découvert l'infini aussi. Enfin, c'est quand même comment se repérer dans. Parce que. Il y a 64 pièces, c'est ça ?
Non, 64, oui.
64, ouais, 32 de chaque côté.
64 cases et 32
pièces. On est perturbé.
Combien de pièces ? 16 pièces, 32 pièces. Ouais. Donc, dès qu'une pièce bouge, il y a une possibilité. Comment arriver à mettre de l'ordre là-dedans sans se perdre ? Parce que la théorie recherche des récurrences, en fait, sur des positions de départ. Mais moi, ça me semble encore infini. Comment mettre de l'ordre là-dedans
hein. Alors, je ne veux pas te paraître pessimiste, mais je pense que ça te semblera toujours infini, parce que moi, c'est ça que j'aime dans le jeu d'échecs, justement, c'est de me dire que je serai une éternelle apprenante. C'est un jeu dans lequel je ne vais jamais m'ennuyer, parce qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir, Et vraiment, je ne vois pas où ça peut s'arrêter, cette découverte.
D'accord. Pourtant, les gens, quand même, ils parlent de l'ouverture système de Londres.
Alors,
système italien, etc. Et après, il y a la variante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce qui m'étonne, c'est que vous les connaissez, ces variantes.
Alors là, c'est une façon d'essayer de mettre, comment dire, quand on apprend des ouvertures en leur donnant des noms, c'est une façon d'essayer de mettre, je vais dire, un peu d'ordre dans cette espèce de désordre qui peut partir dans tous les sens, de mettre un peu d'ordre pour essayer de s'y retrouver finalement. Mais il y a toujours un moment où on arrivera à un endroit qui n'a pas été exploré.
Oui. En plus, faut ajouter qu'il y a l'ordinateur aujourd'hui qui est meilleur que tout le monde.
Oui, oui.
Parce qu'il peut explorer presque l'infini et arrive avec des solutions parfois étonnantes. Ouais.
Oui.
Alors, il y a donc la préparation des cours. Pour ça, il y a des logiciels qui permettent... Enfin, je complète, hein, mais il y a des flèches, il y a des... On voit, par exemple, le roi qui se déplace d'une case avec la machine, avec le logiciel. On peut mettre les trois cases sur lesquelles on ne peut pas aller, etc. Mmh. Et c'est génial pour apprendre, ouais. Quoi d'autre ? Après, l'enseignement, c'est l'entraînement, c'est quoi ? C'est des exercices, c'est des parties, c'est des parties en ligne, c'est des tournois ? Comment ça se passe ? Allons sur peut-être les tournois ? Ou non, peut-être alors, avant les tournois, les exercices que vous faites.
Ouais. Alors moi, je n'en fais pas assez, mais je pense qu'il faut, pour progresser, il faut absolument faire beaucoup d'exercices tactiques. Tout à l'heure, je disais déjà commencer par les livres, hein, ce que je fais, mais aussi beaucoup d'exercices tactiques. Et là, les plateformes en ligne comme l'e-chess ou chess.com sont vraiment très bonnes. Hein. Il y a de très bonnes possibilités de faire beaucoup d'exercices tactiques. Bon, j'en fais pas assez par manque de temps, mais déjà beaucoup d'exercices tactiques. Et puis, revoir ces ouvertures. Et
ah oui, finale. Réviser les ouvertures, les apprendre.
Voilà, apprendre au moins les 10-15 premiers coups pour savoir dans quelle direction on veut orienter une partie. Et aussi travailler les finales. Les finales sont très importantes parce que savoir commencer une partie, c'est bien, mais la terminer, c'est mieux. Donc connaître les finales basiques. Alors Michel les connaît beaucoup mieux que moi.
Une finale, c'est quand il n'y a plus que 4 pions sur le...
Quand il n'y a plus que des pions, ce qu'on appelle les finales aux échecs, c'est la fin d'une partie lorsqu'il n'y a plus que quelques pions, voire une pièce ou deux pièces sur l'échiquier. Et il y a beaucoup de théories autour des finales, beaucoup plus peut-être que sur les ouvertures, enfin je ne sais pas, mais sur les finales, oui, il faut savoir manier, terminer une partie avec une tour de chaque côté sur l'échiquier, avec un pion. C'est pas la même chose que de terminer une partie lorsqu'il y a un cavalier contre un fou et quelques pions. Ce sont des finales qui s'apprennent et il y a des coups théoriques à connaître.
Michel, peut-être.
Oui, non, j'ai pas grand-chose à rajouter à Marine, à ce que Marine a dit. Oui, c'est des révisions, c'est des exercices tactiques, c'est se analyser. Ce que l'on joue grâce au moteur d'analyse, hein. L'ordinateur nous dira si notre coup
oui,
est bon ou pas.
Pour chaque coup, il va noter la valeur de ce coup.
Je compléterai ce que tu dis. Moi aussi, j'adore les livres. Quand je travaille mes échecs, j'ouvre un livre. Mais j'aime bien compléter ça par l'étude de la partie au regard des bases de données actuelles. Quand on s'intéresse à un début ou une partie, à un moment donné, on la rentre sur un site, sur les plateformes, et très rapidement, la personne va te dire que ça a été joué 20 fois, ou 50 fois, 100 fois, une fois.
Oui, il répertorie à chaque fois.
Il répertorie à chaque fois, et c'est magnifique, parce que cet accès à l'information aussi rapide, de voir tiens, ils ont joué ça et ça a été amélioré. Tiens, il a gagné, il a perdu. Comment c'est possible ?
Et ça, on peut le faire. En plus, on peut le faire. Attention.
Oui.
On peut le faire pour les champions, en plus.
On peut le faire pour les champions.
On sait ce que Kasparov a fait le 9 mai 71 contre je ne sais pas qui. C'est impressionnant, ouais.
Oui, oui, oui. Et donc, c'est assez fabuleux de se dire qu'on peut vraiment construire sa culture. Presque, ou ces ouvertures grâce à ces outils qui sont les livres, les bases de données et le verdict qu'il ne faut pas toujours prendre pour messianique du moteur d'analyse.
De l'ordinateur.
De l'ordinateur.
Et on peut peut-être compléter aussi en disant qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont très bonnes aussi, hein, qu'on peut trouver sur Internet, mais il y a aussi de très mauvaises vidéos.
Et ah, c'est
donc...
vrai,
ouais. Ah, oui. Donc... Faites attention à ce que vous regardez. Ouais.
Donc en fait, avant de regarder les vidéos, demandez peut-être l'avis de quelqu'un qui puisse, dans un club, vous dire non, là, il ne faut pas, parce que c'est ce qu'on te montre, oui, c'est peut-être un super piège pour gagner une partie, mais tu ne le verras jamais en vrai. Donc...
Bah, c'est vraiment l'impression que j'ai voilà. Parfois, moi, comme élève, mais même avec vous, des fois. Alors, il fait ça, donc le blanc va faire ça, la tour va arriver, mais là, malheureusement, le cavalier est là, et boum, échec et mat. Ah bon? Et on est obligé, quand on fait un cours, quand on fait une démonstration, de supposer ce que fait l'autre. Et c'est ça la difficulté, à vrai dire.
Mais alors, si
d'où l'intérêt d'étudier les vraies parties. Ouais.
Alors, si sur Internet, on rencontre le meilleur comme le pire, il y a quand même aussi le meilleur. Et dans les vidéos, il y a des vidéos de grands maîtres qui sont vraiment excellentes et qui permettent aussi de progresser.
Et vous, ça ne vous a pas tenté hein, de faire un site en ligne?
Alors, c'est, je pense, plus compliqué qu'on ne pense de faire des vidéos, des sites en ligne, puisque le montage vidéo,
oui.
C'est même
en
si,
soi, c'est un métier, ouais.
Même si on condense, on a bien écrit sa leçon et que ça tient bien 10 minutes, il faut quand même 2 heures de montage, 3 peut-être.
Oui, c'est ça.
Cédric, à l'époque où Cédric Le Gros jouait encore au club de l'USAM, il avait monté une chaîne, on va dire, sur YouTube, mais il avait fait 4-5 séances en ligne. Il les faisait en direct. Après, elles étaient accessibles, on pouvait les revoir. Je crois que tu avais participé,
oui,
Michel,
oui.
Avec Jérôme à l'époque.
C'est pas facile.
Pas facile, ouais.
Donc, voilà, ça a été fait quand même à Brest, mais c'est pas facile à mettre en place. Et en même temps, il y a une telle richesse déjà qui existe... que c'est peut-être rajouter juste un peu... ce qu'il y avait de bien avec les vidéos de Cédric à l'époque, c'est qu'il s'adressait directement aux membres du club, et que c'était en direct, et qu'il y avait une interaction,
oui, c'est ça.
Directe avec le public. Mais faire paraître des vidéos, c'est pas évident. Moi, c'est pareil, pendant le Covid, j'avais fait des séances, puisqu'on était confinés, j'avais fait des séances en ligne aussi... parce que j'avais quelques personnes qui étaient demandeuses, hein, qu'on avait essayé de poursuivre du mieux qu'on pouvait l'actualité,
l'activité
échec via Internet. Et on avait fait des tournois en ligne, des tournois internes, mais également j'avais proposé des séances. Bon, après, donc c'est quelque chose qui peut se faire, mais... faire des vidéos uniquement pour les mettre en ligne, il y a une telle richesse actuellement que je ne sais pas si c'est...
Ouais.
Voilà, c'est pour être noyé, je ne sais pas si ça, c'est vraiment utile.
Ouais,
on peut aussi... pardon Hervé, il y a des risques aussi déjà de proposer quelque chose en doublon. Hein, des
thèmes. Ça c'est sûr, mais bon...
Et alors, bien qu'on est prof d'échec, on sait quand même... on cible quand même notre public, mais sur une vidéo... Si le public n'est pas bien visé, ça se voit de suite et c'est une catastrophe.
Ah, c'est vrai ? D'accord.
Je pense. En cours, on peut des fois partir sur des choses un peu plus compliquées ou des choses simples, hein, montrer le piège, puis aussi montrer les coups les plus précis, mais l'éventail est plus large, enfin l'éventail de niveau du public auquel on s'adresse, tandis que sur une vidéo, on ne peut pas blablater pendant une demi-heure, il faut faire... 10 minutes bien carrées et bien bien ciblées, que ça déborde pas trop.
Oui, oui, oui.
Pas noyer, et ça...
Ouais, c'est un format pas si simple, c'est sûr.
Ah oui, oui, et puis tout le monde ne sait pas le faire non plus.
Et alors, dans vos activités, il y a aussi les tournois, parce qu'il faut maintenir le classement, faut y aller. Bon, il y a des prix, mais alors vous m'avez dit assez vite que pour gagner son argent dans les tournois, il faut être classé 2006 peut-être.
Oui, au moins.
Alors, 2006, ça ne dit rien aux gens, mais vous avez dit que c'est les 100 premiers, en fait, au monde, qui peuvent gagner leur vie avec ça. Ceci étant, vous devez quand même faire des tournois. Alors, comment ça se passe? Comment on se prépare Et moi, ça m'intéresse parce que je stresse quand je joue contre quelqu'un. Si je le connais, c'est sympa, on fait une belle partie, voilà. Si c'est un inconnu, j'ai envie de gagner, toi.
Oui.
Et l'autre jour, là, j'étais au cours des enfants, j'ai vu un enfant, quand il perdait, il pleurait. Bon. Et ça m'a fait un peu mal, d'ailleurs. Je me suis rendu compte que les échecs, c'est un jeu intellectuel, semble-t-il, mais aussi énormément émotionnel. Parce qu'il n'y a, y a, y a, y a qu'un qui gagne, il n'y en a pas deux. Hein. Et il faut gagner. Alors, comment vous gérez ça? Comment vous le faites dans les tournois? Comment vous vous préparez?
Alors bon,
Vas-y, vas-y, ouais.
alors
Que tu m'as dit que tu avais de moins en moins de stress, voire tu n'en as plus du tout, sauf
oui,
avant.
j'en ai de moins en moins, ouais. C'est vrai.
Alors que tu es classé combien? 2000 quelque chose.
De 2100 Elo, oui.
Ouais, ça ne dit rien aux gens, mais enfin, c'est un niveau très, très élevé. Ouais.
Bon, peut estimer que c'est un niveau régional.
C'est ça, tu as été champion de Bretagne. Donc.
J'étais champion de Bretagne deux
Et toi, tu as
fois.
été champion de Finistère. Ouais.
Champion du Finistère, oui.
Ouais. Bon, voilà.
Enfin, meilleure féminine.
C'est pas rien, la Bretagne, il y a du monde. Ouais, bon. Voilà, moi, je me pose la question. Donc, pourquoi moins de femmes en championnat? Pourquoi moins de femmes championnes? Pourquoi moins de femmes professionnelles dans le domaine des échecs? Marine.
Alors, moins de femmes dans les clubs, oui, ça. Et même lorsque j'étais éducatrice sportive, je le vérifiais. Et moi, je pense que ça vient d'un phénomène culturel qui fait que, malgré ce qu'on pense de la libéralisation depuis les années 80, l'accès à l'égalité dans beaucoup de domaines, malgré tout, les indicateurs disent le contraire, disent que les tâches ménagères pour les femmes ont augmenté, que le temps passé à s'occuper du foyer a augmenté également, et que finalement, les femmes ont peut-être moins le loisir de pouvoir aller dans des clubs, moins de temps, qu'elles ont d'autres préoccupations et qu'elles placent peut-être leur centre d'intérêt qu'elles ont des centres d'intérêt qui vont d'abord aller en priorité à d'autres domaines que ce qu'elles peuvent avoir envie de faire, qu'elles se disent peut-être j'attends le moment opportun.
Est-ce que peut-être plus ouais, de la famille, par exemple, ou du foyer, ouais.
Voilà.
Mais vous alliez l'autre jour plus loin, vous me disiez que même au niveau professionnel, avec des femmes qui sont très, très classées très haut, qui sont championnes, les sponsors les suivent moins, voilà, la profession les suit moins.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour un homme de vivre de sa pratique, alors de son sport ou de son activité lorsqu'il a des sponsors, des partenariats, que des femmes ont beaucoup plus de mal à trouver.
D'accord. Et Michel, vous avez un avis sur
Alors,
le
oui,
sujet?
je reprends sur tes trois questions. Donc, pourquoi moins d'effectifs féminins? Je vais reprendre le mot de Maïwenn Rusbossan qui me disait
C'est qui Maïwenn?
c'est une animatrice qui anime avec moi
Ah, ok,
à
d'accord.
Gouesnou auprès des jeunes.
Citons-la.
Citons-la. Qui est souvent arbitre d'ailleurs dans les championnats scolaires et qui dit une chose très simple, elle dit c'est pas facile d'être une fille dans un club d'échecs.
D'accord, c'est pas facile parce que il y a un machisme.
Alors, c'est.
Déjà, il n'y en a pas
Je
beaucoup, donc on ne retrouve pas des personnes comme soi.
pense que c'est pas un machisme à temps, c'est le fait que mettez-vous à la place d'un joueur d'échecs qui affronte une femme et qui. Je pense qu'il s'investit beaucoup plus dans sa partie, qu'il va vraiment vouloir
Ne pas perdre.
ne pas perdre au nom de tous les hommes.
Il va
Et
vouloir
voilà.
gagner, c'est
Vous voyez?
la gagne.
Voilà, et il faut voir certaines têtes qui se décomposent après les défaites.
Ah, c'est vrai?
Ah là 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 là.
Alors, moi, je tiens à préciser que, en sens inverse, je suis beaucoup plus motivée quand je joue contre des hommes et que parfois, quand je joue contre des femmes, je suis plus. On est plus un peu copines.
Faites
C'est
une partie
davantage.
ensemble.
Davantage pour faire une belle partie et s'amuser ensemble. Alors que quand je ressens du côté des hommes, justement, ce côté de ne pas vouloir perdre, moi, ça a tendance à me motiver davantage pour ne rien lâcher et que je suis beaucoup plus tenace face aux hommes que face aux femmes.
Bon, d'accord, ok.
Donc.
Enfin, moi, j'ai rencontré chez des hommes aussi des qualités que vous attribuez aux femmes. C'est-à-dire, on fait une belle partie.
Oui,
Et
c'est
j'ai
ça.
vu des gros killers, ouais, qui, la seule chose qui compte, c'est de gagner, quoi qu'il arrive. Et ouais, c'est un peu terrible, des fois.
Mais je dois dire quand même que dans le milieu des échecs,
Ça
alors,
s'adoucit, ouais.
Bon, on se serre la main là, à la fin, quand même.
J'ai rarement été confrontée à du vrai machisme dans le milieu des échecs. Hein. Après, je suppose que comme partout, à l'image de la société, il existe et qu'il est bien présent et que si on prenait tous les individus les uns derrière les autres, bon, ben, on aurait à en rediscuter. Mais en tant que femme dans le milieu des échecs, où on est très peu nombreux, surtout dans le Finistère à une époque... on se comptait sur les doigts d'une main et j'avais plutôt l'impression, au contraire, qu'on cherchait à nous encourager à rester.
D'accord. Oui, alors comment on se prépare à un tournoi et comment on gère le stress et le fait de perdre, hein, parce que l'échec, c'est malgré tout, c'est pour gagner.
Alors moi, je dirais que... au niveau du stress, alors c'est vrai que il y a beaucoup de stress, surtout que c'est vraiment on est en opposition avec un adversaire,
c'est frontal,
c'est comme un sport de combat, hein, quelque part. Des fois d'ailleurs dans une partie d'échecs, moi ça m'arrive de me sentir sonné un peu comme un boxeur, j'allais dire. Quand on voit des boxeurs à la télévision, on a l'impression d'être sonné pareil, de plus savoir où on habite, parce que quand on sort pendant les parties longues, prendre un peu l'air, parce que des fois, une partie peut durer 4, 5, 6 heures.
C'est énorme, ouais.
Parfois, bah, on bouge un peu, on va prendre l'air. Mais moi, j'ai l'impression d'être sonné quand je suis malmené et que je cherche des solutions. Et malgré tout, j'ai envie de dire... qu'il y a du bon et du mauvais stress et que dans toutes les pratiques, qu'elles soient sportives, je trouve que c'est plutôt ces pratiques d'opposition, que ce soit en jeu ou en sport, elles sont très... c'est une sorte de bon stress qui est stimulant, qui on se dit que finalement, même si on perd, bah, c'est pas grave parce qu'on progresse aussi davantage de ses erreurs et on peut analyser après et ne pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est un peu ce côté comme lorsque vous jouez à n'importe quel autre jeu, vous dites « Ah, est-ce que je vais faire un 6 au dé ?» Et on a ce petit stress, est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre ? Mais c'est dans le jeu, c'est dans le jeu. Et moi, je trouve que ce n'est pas un stress négatif.
C'est un stress qui mobilise, ouais. comme quand un comédien monte sur scène, par exemple, tout d'un coup, il a 3 fois plus d'énergie. Ouais.
Oui, c'est vrai, ouais, le comédien finit par s'assaler et le texte coule tout seul. Bon, quand...
Et puis le stress lui donne une énergie physique même, qu'on n'a pas hors de scène. Ouais. Et aux échecs, on trouve ça. Ouais, ouais. Mais on peut trouver aussi la panique, enfin, ça dépend. Mais... Ou alors le fait d'avoir du mal à digérer, d'avoir perdu peut-être.
Le sentiment de panique peut venir de pas mal de choses. C'est vrai que c'est pas vraiment un tournoi, c'est... C'est déjà essayer de ne pas faire trop d'erreurs dans la gestion de son tournoi, donc la gestion du temps de sa partie. Je pense que bien jouer un tournoi, c'est savoir aussi...
parce que c'est chronométré,
quelque
ouais.
part, s'économiser. Toujours garder le temps, ne pas se mettre... certaines personnes adorent se mettre dans des conditions où ils doivent jouer très vite leur coup. Mais globalement, oui, il ne vaut mieux pas le faire si on veut avoir l'esprit clair... sur une partie...
C'est vrai qu'il y a le long terme. Enfin, moi, au bout d'une heure de jeu, je suis épuisé, à vrai dire. Et les tournois, ça dure 3, 4 heures, 2 jours, 3 jours.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, c'est une espèce de marathon, malgré tout.
Il faut réussir à arriver, en fait, sur la partie avec à peu près le même état d'esprit, la même humeur, je pense, pour pouvoir réussir, être satisfait de son tournoi et y prendre du plaisir.
Et une forme physique.
Et une forme physique, évidemment.
D'ailleurs, les grands maîtres, il me semble que beaucoup font beaucoup d'exercices. Hein.
Ah oui.
Oui. C'est fatigant de rester sur une chaise pendant 5 heures. C'est vrai.
Ah, mais c'est très dur. Ouais.
on a mal aux épaules, au dos à la fois.
Non, puis avec la concentration, parce que si, faut être sur toutes les pièces à la fois.
Oui.
Les siennes et celles des autres, celles de l'autre. Et alors, est-ce que le fait d'être professionnel, vous êtes professionnel parce que vous en vivez? Change votre rapport au jeu. J'ai tout à l'heure sur le web, j'ai vu des joueurs d'échecs de très bon niveau qui gagnent des prix et qui arrivent, semble-t-il, à faire des accords de nul pour que les deux gagnent.
Oui.
Et donc ça modifie le rapport au jeu en fait, puisque ça devient un gagne-pain.
D'ailleurs,
vous n'êtes pas, vous faites pas ça, vous gagnez pas votre argent par des prix, bon.
Alors, d'ailleurs, énormément de tournois maintenant, dans énormément de tournois, il y a des règlements qui interdisent de faire nul avant qu'un certain nombre de coups aient été joués pour éviter les arrangements.
Ah, c'est vrai?
Ah oui.
C'est souvent donc, au moins 20 coups et 2 heures de jeu.
Ouais. Voilà, donc il y a de moins en moins d'arrangements. Et puis ensuite, pour répondre à ta question, moi, je dirais que ça ne change pas ma pratique, le fait d'être professionnel, parce que finalement, je suis professionnel pas du jeu d'échecs. Moi, je ne gagne pas ma vie en jouant aux échecs, mais de l'enseignement.
Oui, c'est ça.
Et donc, quand je suis joueuse, je suis vraiment toujours joueuse. Par contre, ce qui peut changer, c'est que ce qui était auparavant un loisir, les échecs, maintenant, quand je fais ce loisir en jouant, j'ai l'impression un peu d'être dans mon travail finalement, mais
ça rassure.
Mais c'est quand même
pas...
deux choses différentes. Hein. Jouer, ça n'a rien à voir avec
enseigner
la pratique. Hein. C'est autre chose. Donc quand je suis en compétition, je suis vraiment en compétition et.
D'accord. Et le.
Oui, je suis pas d'accord avec Marine. Enseigner les échecs, c'est enseigner le plaisir qu'on a à y jouer tout simplement, et à donner l'envie d'apprendre davantage de ce jeu, d'apprendre davantage de soi avec ce jeu, et puis de faire une bonne bande de copains et de copines.
Oui, il y a une ambiance dans les jeux d'échecs, qui est plus conviviale qu'on pourrait l'imaginer de loin, ouais.
C'est ce qui fait que j'y suis restée, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivée très tard à l'âge de 39 ans, j'avais envie de pousser la porte d'un club, et moi je me faisais toute une image, une montagne, en me disant, si ça se trouve, il n'y a que des premiers de la classe, personne ne se parle, c'est sérieux, et en fait... En fait, en ouvrant la porte, j'ai vu de la déconnade, je me dis, mais c'est un club d'échecs ou quoi? Et puis en fait, tout le monde était... Alors, il y a un sérieux, mais en même temps, une très très bonne ambiance, quand j'ai découvert le club de Brest, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de rester, parce que sinon j'aurais arrêté et puis je pouvais jouer sur Internet. Hein, mais c'est vraiment, ce sont les relations au sein du club qui m'ont fait rester dans le milieu des échecs.
Donc, on rigole bien aux échecs.
Oui. Donc, venez.
Et le plaisir d'enseigner, c'est, enfin, tu disais partager. Parce qu'il y a aussi des formes de jeux. L'autre jour, on m'avait dit que plus ça va, plus les jeux sont quand même bétonnés. Au lieu d'avoir des jeux comme, je ne sais pas, on imagine en football, le football brésilien à la pelée, où bam, 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 il y a des beaux gestes. Alors, le plaisir d'enseigner et puis cette évolution possible de la façon de jouer, peut-être liée ou d'ailleurs à l'informatique, je ne sais pas.
Alors, c'est un ressenti de ma part. Hein. Je pense que ce qui a changé en 20 années, je dirais, une quinzaine d'années, c'est que il y a 15 ans, on voulait absolument faire une partie, faire le beau jeu. Elle vient que pourra, quoi. Tandis que maintenant, je trouve que le sentiment des personnes. Quand elles ont perdu, c'est pas comme si elles avaient perdu à un jeu normal, mais il y a comme cette sorte de perte de confiance en soi. On est un peu humilié ou je sais pas.
Ah ouais.
Et
il y a un rapport à la victoire différent. Hein.
On est passé de vouloir mettre toute dernière pour gagner à ne plus vouloir perdre.
Ah, c'est vrai.
Je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac, mais
bien sûr.
Trouve qu'il y a vraiment cette mentalité-là de « Ah non, je ne veux pas perdre, non, je ne prendrai jamais ce risque-là.
Ouais, » moi, j'ai l'impression que c'est le jeu en ligne qui favorise ça, parce qu'on est face à personne. Alors que quand on est face à quelqu'un, on peut discuter de la partie, la refaire, voir les points de bascule.
Également, oui. Peut-être
ça aussi, ça a changé. Tu vois, l'analyse après la partie devient très rare, parce que quand ça se fait, la personne qui a gagné voudra encore gagner à l'analyse et montrer que tous les coups qu'il a produits étaient exempts d'erreurs. Alors que une partie, ça...
Il y a toujours des points faibles, il y a toujours des endroits faibles.
Voilà, oui, surtout quand on n'est pas grand maître ou professionnel, on voit très bien que à tout moment, enfin très souvent, la situation peut...
D'accord. Donc ça fait moins les analyses après jeu, c'est dommage.
Voilà, c'est tout à fait dommage, parce que c'était vraiment un partage de connaissances. Et là, maintenant, bah, la connaissance, les gens préfèrent la garder pour eux, pas trop dire voilà, oui. Qu'est-ce qu'ils auraient joué ici et là, et pas montrer éventuellement.
Il y a aussi le phénomène maintenant de, bah, des analyses grâce aux ordinateurs, c'est-à-dire que beaucoup peut-être se disent pourquoi analyser maintenant alors que je rentre à la maison, je branche l'ordinateur et il va me dire c'était quoi le bon coup tout de suite.
Mais il y a une perte de la rencontre c'est... de l'autre, là. Ouais.
Voilà, là, avec l'ordinateur, je pense aussi, oui. Oui. Et aussi, pour accentuer ce que tu disais, Michel, les analyses par ordinateur, ça participe, je pense, du fait que les parties sont de plus en plus bétonnées parce que, ben, on fait les recherches pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre, puisque toutes les ouvertures sont réfutées. Grâce à l'ordinateur, on peut réfuter toutes les ouvertures. Et donc, on essaye, avant de se dire « je vais engager le combat », eh ben, je sais comment contrer mon adversaire grâce à un ordinateur. Donc,
ouais. Moi, je pense que c'est peut-être l'exhaustivité des réponses de l'ordinateur qui font qu'il y a moins d'inconnus, moins d'aventures et moins d'appréciation finalement personnelle, qui veut dire qui viennent du style. Il y a le style de jeu. L'ordinateur peut-être ratisse un peu tout ça.
Oui, tout à fait. Oui. Oui, on entend très souvent, après une partie un peu décousue, dire des fois, on est obligé de faire un coup parce qu'il faut jouer un coup et qu'on ne trouve pas mieux. Et on s'entend dire, oui, mais ce coup-là, l'ordinateur, enfin, t'es mort après ça, quoi. Enfin, normalement, t'es mort, c'est foutu. Ça, on peut pas jouer comme ça, limite. On n'a même plus droit de jouer allègrement.
C'est vrai. Bon, bah, l'ordinateur a permis l'explosion des échecs et en même temps le transforme un peu.
Ça, ouais. Peut-être,
mais... Oui,
t'es un ancien, t'es de l'ancienne école.
Ouais, c'est ça.
Le jeu romantique.
Un peu, ouais.
D'accord.
Mais je pense que l'ordinateur a quand même ses limites. Enfin, lui, il n'a pas de limite, c'est-à-dire que ça sera toujours aussi carré, l'analyse d'un ordinateur. Mais l'emploi des analyses de l'ordinateur a ses limites pour nous. C'est-à-dire que même si l'ordinateur nous dit à un moment que là, le coup est perdant ou qu'il est gagnant ou que la partie va être nulle, à nous de le démontrer derrière sur l'échiquier. Et pendant une partie, on n'est pas aidé par l'ordinateur. Même si je sais qu'à un moment, un coup que j'ai analysé, l'ordinateur indique que c'est partie nulle et que je peux ne pas perdre cette partie, par exemple, je dois le démontrer après sur l'échiquier et sur les 15-20 coups qui vont suivre. Et là, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que je pense que, malgré tout, les échecs ont encore une longue vie devant eux, malgré les analyses des ordinateurs.
Mais il y a un côté absurde avec l'ordinateur. Moi, ce que je pense, c'est que l'ordinateur va donner une réponse, une évaluation du jeu à partir d'un nombre quasi infini, impossible à saisir pour n'importe quel humain. À partir de là, il va donner sa réponse et donner foi à 100% à cet ordinateur qui opère d'une façon qui n'a rien à voir avec la façon dont on opère nous, est un peu absurde parfois, surtout au niveau auquel moi je suis, mais même à votre niveau. Ouais.
Ben, faire confiance à l'ordinateur, c'est se dire qu'on, dans ces cas-là, que ben, on joue comme des dieux.
Ouais, comme si on pouvait, on voyait l'avenir. Ouais. Parce que l'ordinateur voit l'avenir avec une approche statistique. Ouais. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. Mais on joue pas comme des dieux, non. tant mieux.
peut-être. Voilà, faut faire attention à cette plus-value-là que nous donne l'ordinateur.
D'accord. Et sur, alors, dans le cadre du métier, le bénévolat, comment vous qui pourrez. Comment vous voyez le bénévolat, et notamment à Brest? Parce que moi, j'ai été comédien, j'ai donné des cours, et le fait que c'est a priori une bonne chose sur une ville, il y a beaucoup de bénévoles, mais moi, j'ai l'impression que ça casse aussi une activité économique. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, sur le bénévolat dans le jeu d'échecs, quand il y a des gens qui en vivent? C'est peut-être incontournable, c'est ça la réponse, je ne sais pas.
Alors, je ne sais pas si on peut parler... Pour moi, il n'y a pas forcément de concurrence avec le...
Ah, c'est vrai.
Oui, parce que ça va... Si nous, on va être payé pour faire des séances, c'est parce que ça, c'est pour faire des choses que les bénévoles ne peuvent pas faire.
Ouais, c'est ça. Vous ne proposez pas la même chose.
Voilà. C'est-à-dire qu'un bénévole peut ouvrir une salle. Est-ce qu'il va faire des cours? Peut-être qu'il peut le faire bénévolement. Au bout d'un moment, vu le temps de préparation que ça demande, je pense qu'il va vite demander au moins avoir soit un remboursement kilométrique pour ses déplacements, soit voilà. Et donc,
Est-ce qu'à ce moment-là, ça devient un métier qui doit être payé et donc on n'est plus dans le bénévolat.
Oui, il y a quand même. Après, les bénévoles dans les associations, ils sont aussi indispensables. C'est eux.
Ah, mais
font,
c'est ça le problème.
C'est ouais, eux enfin, qui c'est font le... vivre les
oui,
associations. Hein.
C'est vrai.
Et donc, mais par contre, quand une association se tourne vers des personnes, enfin veut salarier des personnes ou se tourne vers des professionnels pour encadrer, c'est vraiment pour une fonction spécifique. Et je pense pas, il n'y a pas forcément concurrence.
D'accord, ok. Bah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, je trouve.
Enfin, moi, je, c'est mon.
Tu es d'accord, Michel
comme ça,
Oui, je suis tout à fait d'accord, oui. Le temps de préparation d'un cours est quand même assez exigeant. Et même si le bénévole. Le niveau pour pouvoir en dispenser, je pense, ne le fera pas à chaque fois.
Oui, parce que c'est il faut, c'est un boulot
ça,
qu'il
ça
faut
demande,
faire.
Voilà, et il faut faire un, il faut vraiment un projet pédagogique et donc une bonne expérience déjà pour le faire. Ouais.
J'ai assisté à vos cours, je vois, ouais, il y a effectivement. Un cadre, une perspective, une exploration, des parties analysées et un objectif de compréhension minimale, etc. Ouais, c'est un métier, ouais. D'accord.
Et l'aspect positif, hein, que c'est une marine aussi, bien sûr, sans bénévoles, ben, pas d'association, pas de prolongement aussi de grandes choses, enfin de grands événements.
Oui, ouais, parce qu'il faut du monde. Pour faire un tournoi, il faut du monde.
Il faut du monde.
Les arbitres sont payés ?
Les arbitres
ils ont
des tournois, oui.
Oui, ils ont des.
Ça pourrait être une façon pour vous de aussi de compléter.
Bah, il faut aimer arbitrer.
Ah, pourquoi ? Qu'est-ce que ça n'a pas de.
Bah, on préfère jouer.
Ok, ouais. Oui, c'est mieux jouer qu'arbitrer. Bon, d'accord.
Voilà.
Ah, mais l'arbitre est payé. Bon.
Ah, oui, mais.
D'accord. Et on va finir sur. Vous repérez un jeune homme de 12 ans, 13 ans, parce que ça commence jeune, les échecs, qui est fort et qui prétend, au bon sens du terme, il a la prétention, au bon sens du terme, d'essayer d'être prof. Ou pas d'être prof forcément, mais de vivre, c'est mieux encore, c'est encore plus difficile, de vivre des échecs. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à un tel enfant, à un tel jeune homme, sur les mises en garde énormes? Et sur les critères qu'il devrait vérifier chez lui pour éventuellement tenter un moment d'en vivre du jeu d'échecs.
Alors,
on part.
Question difficile. Alors, déjà,
ouais, question est difficile, c'est sûr. Ouais.
Mais un enfant qui voudrait devenir.
Un adolescent, on dirait.
Voilà, un adolescent, voilà.
Un adolescent déjà classé, bien élevé.
Qui voudrait devenir prof d'échecs, moi, je commencerai par lui dire que même si c'est une passion, à ce moment-là, c'est un métier. Comme tout métier qui est lié à des enseignements, il faut qu'il ait déjà envie de transmettre quelque chose.
C'est ça, il faut qu'il ait envie d'être enseignant.
Voilà, envie de transmettre, envie de partager avec les autres. Mmh. Et également, avoir l'envie, beaucoup de curiosité et l'envie de découvrir toujours de nouvelles choses. Parce que je pense qu'un prof, c'est avant tout quelqu'un qui apprend en permanence et qui va vouloir redonner, retransmettre ce qu'il apprend en permanence. Donc, avoir envie d'enquêter, de rechercher des choses, d'avoir une curiosité, une ouverture qui va pouvoir... beaucoup de choses qui m'émerveillent et que j'ai envie de... Ça m'a tellement émerveillée de découvrir certaines tactiques ou dans mes autres métiers certains aspects du jeu quand j'étais au tennis de table ou découvrir le monde quand j'étais en histoire-géo, que j'avais cette envie de le partager, de le transmettre. Et donc, je pense que c'est déjà cette envie de partager, de transmettre, et en même temps, d'avoir aussi une certaine dose d'empathie pour se mettre à la place du public.
D'accord.
Et pouvoir mieux comprendre ce qu'il attend.
Et...
Oui, exactement. Les échecs, c'est un jeu... On le sait, il est difficile. Hein. Et enseigner les échecs, oui, ça demande vraiment, oui, beaucoup de curiosité. Toujours alimenter donc son auditoire, je dirais, enfin ses étudiants, en disant que c'est un jeu vraiment très beau.
Oui, il y a une esthétique, oui, comme en mathématiques, les mathématiciens disent ça aussi.
C'est exigeant aussi, puisque les coups ne sortent pas du chapeau. Hein. Il faut des fois creuser longtemps.
C'est quoi un beau coup?
Un beau coup, c'est...
Un coup qui gagne.
non, justement.
C'est un coup, je trouve, c'est un coup qui couronne
une construction préalable.
Une construction valable, mais c'est aussi quelque part. Oui, non, c'est ça. Un beau coup, c'est
le résultat d'une préparation.
C'est le résultat d'une préparation. Et je pense, le plus important, c'est un coup qui sort de l'évidence. N'est pas. Oui.
Qui peut étonner.
C'est un coup original.
Oui.
Et peut-être qu'avec une prise de risque à un moment.
Oui, prise de risque ou même.
Une invention.
Simplement, tu parlais d'empathie. Un beau coup, c'est des fois simplement. Oh tiens, j'ai vu ce que mon adversaire voulait faire. Bah, j'ai trouvé exactement le pire coup, celui qui va lui saborder tous ses espoirs.
Ouais. Ouais, c'est joli, ouais.
C'est ça, on appelle ça la prophylaxie.
Mais la prophylaxie, c'est parer aux attaques.
Voilà, anticiper les dangers avant qu'ils n'arrivent.
Et est-ce qu'il y a un lien entre la façon de jouer et le caractère? Vous avez déjà vu ça ou
Je pense il est évident.
Oui.
Ah ouais?
Oui. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des ouvertures aux échecs. Il y a des ouvertures qui sont très ouvertes, très offensives. Et il y a des ouvertures, au contraire, avec des jeux beaucoup plus positionnels qui vont... temporiser, prendre le temps de construire avant de vouloir lancer une attaque ou peut-être même ne garder que des structures défensives. Et je pense que c'est lié au tempérament. Moi, en tout cas, c'est exactement ce que j'essaye de faire à chaque fois que j'ai un nouveau public. C'est, dans un premier temps, de ne pas aller trop à fond dans une ouverture, mais le plus vite possible de leur en montrer beaucoup de différentes pour que chacun, en fonction de son tempérament, se dise « Ah bah cette ouverture va me convenir davantage parce que j'ouvre les lignes et je peux attaquer tout de suite. » Ou alors « Ah bah je préfère rester plus tranquille, c'est cette ouverture qui va me plaire. » Et donc je pense, oui, qu'il y a un lien avec le tempérament.
D'accord.
Les ouvertures, c'est un peu comme les aliments. Hein. On choisit un peu ce qu'on veut manger. Je pense qu'on est ce qu'on mange, non?
Ah c'est, oui, c'est sûr. c'est même fait partie de la médecine chinoise, je crois. On se soigne avec la nourriture. Ouais.
Je reviens sur ce que ta question par rapport à l'enfant de 12 ans qui veut être prof. Bon,
je l'ai pris à 12 ans, il peut avoir 18 ans en fait. Mais dans ce cas-là,
celui qui veut dire professionnel, donc joueur d'échecs,
enfermer les enfants de 12 ans dans une seule voie. On va prendre 18 ans.
De toute façon, 12 ans, c'est déjà trop tard pour lui. la première question qu'il faut lui poser, si tu veux être un très fort joueur d'échecs, es-tu prêt à consacrer 2 à 3 heures par jour?
C'est ça que je voulais entendre, ouais. C'est-à-dire les sacrifices.
Oui.
Si, 2 à 3 heures.
Si tu regardes comme ça en disant « je pensais que en 30, ça suffisait », je dis « non ».
C'est ça, c'est le sacrifice qu'on est prêt à mettre, ouais. Eh bien, on va donc sur ce conseil aux enfants. et rappelons, au-delà des 200 premiers, on ne gagne pas sa vie avec des prix. Bon.
Oui, c'est très compliqué.
Ceci étant, c'est peut-être pour finir totalement. Il y a un professionnel, vous m'avez parlé dans le Bretagne Sud, qui est en train d'essayer d'être professionnel totalement, non?
Non, c'est un collègue Finistère Sud.
Ouais.
Il a commencé, c'est Andrew Baudon, hein, que je salue, que je verrai au championnat de Bretagne, un bon poteau. On sera accompagné de Pierre Bellet, qui est grand maître international d'ailleurs. Donc on sera trois, Baudon, moi et Pierre Bellet, pour encadrer les Finistériens. Et on est très contents d'avoir...
D'accord. Et lui en fait un métier aussi.
Alors lui, il en fait un métier. C'est un.
Un peu à votre façon ou il a d'autres cartes.
Alors lui, il est vu son classement et bien il enseigne donc en particulier. Il se cite par
des. Ah oui, il y a les cours particuliers, donc c'est payé jusqu'à 50 euros ou plus.
Voilà. Oui, dans le cas de Pierre Bellet, il demande moins.
Il est classé combien?
Il est 2500. Ah ouais, 2500 élo, et c'est un très très fort compétiteur. Et une personne très humble et très gentille, très empathique d'ailleurs. Ouais. Ce qui Il y a des entraîneurs qui voudront absolument imposer leur idée, leur dogme, je dirais. Et puis, il y a des personnes comme Pierre Bellet qui sont dans une certaine mesure, qui leur diront, enfin, qui emmèneront toujours sur des bases. Ben voilà, si tu veux bien jouer aux échecs, vois plutôt, je t'inculquer des bonnes choses. Et puis après, tu te développeras comme tu peux, quoi.
C'est ça, il peut imaginer plusieurs façons de jouer. Hein. Eh bien, on va se quitter là. Alors, merci beaucoup, Marine.
Eh bien, merci à toi pour ton accueil.
Oui, merci, Hervé.
Et merci, Michel. Et on se retrouve donc samedi au cours d'échecs.